Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Dans cette édition du Monde aujourd'hui, la campagne présidentielle entre le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden a 8 jours de l'élection du 3 novembre. Jean-Roger Bion nous en donnera les derniers échos. On peut dire d'ores et déjà que le vote par anticipation ou par correspondance est déjà plus important que ce qu'il était 4 ans plus tôt, en 2016, selon une étude indépendante publiée dimanche. Le US Election Project, un centre d'études dépendant de l'Université de Floride, a annoncé qu'à la date de dimanche, plus de 59 millions d'électeurs avaient déjà voté. En 2016, 57 millions d'électeurs avaient voté en avance, que ce soit par anticipation, en personne ou bien par correspondance, selon le site de la US Election Assistance Commission. Préoccupés par la persistance de la pandémie de coronavirus ou motivés par les enjeux de l'affrontement électoral entre le président Trump et l'ancien vice-président Joe Biden, les Américains ont voté en avance par millions. Amnesty International a déclaré dimanche que les forces de sécurité guinéennes avaient tiré à balles réelles contre des manifestants dans des troubles post-électoraux qui ont fait une dizaine de morts la semaine dernière dans ce pays, en Guinée. Et puis, arrivé en Guinée, des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO, Bagassi Koura nous en dira plus. En Côte d'Ivoire, quelques 35 000 membres des forces de l'ordre ont été déployés à partir de ce dimanche pour sécuriser les opérations de la présidentielle du 31 octobre, émaillées par des violences meurtrières, a appris l'AFP de sources policières et administratives. Ce sont 14 000 policiers, 14 000 gendarmes et 7 000 soldats qui doivent sécuriser la fin de la campagne présidentielle et les bureaux de vote le jour du scrutin. Une opération baptisée « Barrissement de l'éléphant », l'animal totem de la Côte d'Ivoire, selon la source policière, s'exprimant sous couvert d'anonymat. Au Seychelles, pour la première fois depuis 1977, l'opposition a remporté la présidentielle, ont annoncé dimanche les autorités. Le nouveau président, Wavell Ramka Lawan, un ancien pasteur anglican, a recueilli 54,9% des voix contre 43,5% pour le président sortant, Danny Faure. Le Cameroun était sous le choc dimanche, au lendemain de l'attaque horrible d'une école par un commando qui a tué au moins 7 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone. Les détails dans quelques instants avec Eric Manirakidza. Et Michel Joseph nous parlera de la visite au Mali du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui est arrivé dimanche à Bamako. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a lancé dimanche un appel à la paix et à la fraternité dans son pays, où les autorités peinent à mettre fin au pillage après 2 semaines de contestation populaire qui a fait mardi soir 12 morts à Lagos, selon Amnesty International. M. Buhari a ajouté qu'il soutenait le principe d'une enquête judiciaire à Lagos pour, je cite, rendre justice aux manifestants pacifiques qui ont perdu la vie, aux hommes de la sécurité qui ont été assassinés et à ceux qui ont perdu des biens pendant les journées de violence, selon les termes d'un communiqué publié par la présidence nigériane. En Angola, une centaine de personnes ont été arrêtées à la suite de violentes manifestations anti-gouvernementales ce week-end dans la capitale Luanda, a annoncé dimanche un haut responsable gouvernemental. Le parti d'opposition, UNITA, a dénoncé un recours à une force excessive et exigé la libération inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie, Idrissa Seydoudia. La suite de nos informations, tout d'abord, la présidentielle américaine du 3 novembre. Coronavirus et échange de pics sur la gestion de la crise sanitaire ont marqué ce week-end la campagne aux États-Unis. Nous retrouvons Jean-Roger Dion.
Après une journée marathon samedi qu'il avait voté en Floride avant d'enchaîner trois meetings dans trois États différents avant de rentrer à 1h du matin à la Maison-Blanche, le président républicain Donald Trump, 74 ans, est reparti dimanche pour le New Hampshire et le Maine. Avec une stratégie claire, essayer de rééditer l'exploit de 2016 en occupant le terrain par une intense série de déplacements, en espérant une nouvelle fois faire mentir les sondages. Sur la chaîne Fox News, Tim Murtaugh, directeur de la communication de l'équipe de campagne de M. Trump, a raillé le candidat démocrate Joe Biden, 77 ans, et mis en doute sa forme physique. Il a pris 5 jours de repos sur les 6 qui ont précédé le débat présidentiel de jeudi dernier, a-t-il ironisé. Le président Trump a accompli plus en 47 mois que Joe Biden en 47 années d'échec, a appuyé Tim Murtaugh. Mais la polémique avec le camp Biden est surtout venue d'une déclaration du secrétaire général de la Maison-Blanche. Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins, a déclaré dimanche dans la matinée Mark Meadows sur CNN. La campagne de M. Biden a immédiatement réagi, ce n'était pas une erreur de M. Meadows, a dénoncé le rival de M. Trump dans un communiqué. C'était un constat honnête de la stratégie du président Trump depuis le début de la crise, agiter le drapeau blanc de la défaite et espérer que si on l'ignore, le virus s'en ira. Ça n'a pas été le cas et ça ne le sera pas, a-t-il tonné. Pour les opposants au président Trump, il s'agit d'un aveu d'impuissance qui disqualifie ce dernier. Ils admettent la défaite, a immédiatement réagi Kamala Harris, la colistière de M. Biden, répétant qu'il s'agissait là du plus grand échec de toutes les administrations présidentielles de l'histoire des États-Unis. Ils ont abandonné leur droit à un second mandat, a-t-elle ajouté, alors qu'elle faisait campagne pour l'élection du 3 novembre dans l'État disputé de Michigan. Peu après ses commentaires, alors que l'ancien vice-président démocrate revenait de l'église proche de son domicile de Wilmington dans le Delaware, son équipe de campagne a annoncé aux journalistes qu'aucun événement n'était à attendre dans la journée. La différence entre ce que nous faisons et ce que fait Donald Trump, c'est que nous agissons avec prudence, a répondu une responsable de la campagne de Joe Biden, Kate Bedingfield, sur NBC. Outre le contexte sanitaire national, cette polémique intervient alors que le coronavirus touche de nouveau la Maison-Blanche dans l'entourage du vice-président Mike Pence. Son chef de cabinet est Mark Short et quelques autres membres importants de l'équipe du numéro 2 américain ont attrapé le coronavirus, a confirmé Mark Meadows. M. Pence et son épouse ont quant à eux été testés négatifs. En tant que personnel indispensable, le vice-président ne va pas modifier son agenda et va continuer la campagne, a fait savoir un porte-parole. Le vice-président américain s'est notamment rendu dimanche à Kingston, en Caroline du Nord, et est attendu à Ebbing, dans le Minnesota, ce lundi. Jean-Roger Billon, VOA Afrique, à Washington.
Dans le reste de l'actualité, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, est arrivé dimanche à Bamako pour, je cite, « établir une relation de confiance avec les autorités de la transition après le putsch du 18 août et avancer dans la mise en œuvre des accords de paix d'Alger ». Le point avec Michel Joseph.
Le chef de la diplomatie française s'est entretenu hier, dimanche, avec les mouvements signataires des accords d'Alger, d'ex-groupes armés issus de la rébellion Touareg, réunis au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, et d'autres pro-gouvernementaux, Gatia. Parmi eux, Al-Gabas Ag Intala, à la tête du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, HCUA, et M. Bilal Hadjirif à la tête du Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA. Deux leaders Touareg parmi les plus influents dans le nord du Mali. Aujourd'hui, Jean-Yves Le Drian rencontre le président de transition Badao, le premier ministre Mokhtar Ouane et son homologue Zeni Moulaye. Pour M. Le Drian, il s'agit de travailler avec les autorités sur les paramètres de cette charte qui intègre à la fois la mise en œuvre des accords d'Alger, la lutte contre la corruption, contre l'impunité et la poursuite des combats contre les djihadistes, en particulier dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Ces accords de paix signés en 2015, qui prévoient une intégration des groupes armés dans les forces régulières, ainsi qu'une grande décentralisation et plus d'efforts de développement au profit du nord du pays, sont en grande partie restés lettres mortes.
Des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CDAO sont arrivés dimanche en Guinée après les violences liées à la réélection contestée du président Alpha Condé pour un troisième mandat. Bagassi Koura.
Une délégation des trois organisations est arrivée à Conakry pour une, je cite, « mission diplomatique préventive ». Parmi les émissaires figurent le président de la commission de la CDAO, Jean-Claude Kassibrou, et le représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a indiqué le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, sans plus de détails. Selon les résultats provisoires annoncés samedi par la commission électorale, Alpha Condé, âgé de 82 ans, a remporté un troisième mandat présidentiel controversé avec 59,49%. Mais le principal candidat de l'opposition, Seydou d'Alain Diallo, conteste ce résultat. Il s'était proclamé vainqueur du scrutin avant la publication des résultats. L'annonce de ces résultats a entraîné immédiatement des violences dans Conakry. Amnesty International affirmait dimanche que les forces de sécurité guinéennes avaient tiré à balles réelles contre des manifestants dans des troubles post-électoraux qui ont fait une dizaine de morts. Amnesty a également condamné les coupures d'Internet pendant les troubles. Les manifestations ont diminué dimanche à Conakry, mais les forces de l'ordre bouclaient toujours le domicile de l'opposant dans la capitale et ont empêché les journalistes de s'y rendre.
Le Cameroun était sous le choc dimanche au lendemain de l'attaque d'une école. Un commando a tué au moins 6 enfants de 9 à 12 ans dans leur classe à Kumba, dans la région du sud-ouest anglophone, en guerre depuis près de 3 ans. Eric Manirakidza.
L'attaque a été menée samedi matin par une dizaine d'hommes munis d'armes de guerre qui ont fait irruption en moto dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Mother Francisca International Bilingual Academy, avant d'ouvrir froidement le feu sur des élèves dans leur classe. Le gouvernement a affirmé dimanche que 6 enfants ont été assassinés. Un bilan fourni par l'ONU faisait état samedi soir d'au moins 8 enfants tués et 12 autres blessés par des tirs et des machettes. Dimanche, une douzaine d'enfants blessés, dont certains sont entre la vie et la mort, étaient soignés dans les hôpitaux de la région, notamment ceux de Kumba, Boya et Mutengene. Ce crime a provoqué une vive émotion dans tout le pays. Plusieurs dizaines de manifestants, principalement des femmes, se sont rassemblés dimanche dans la ville meurtrie pour dire non aux tueries et aux assassinats, chantant et marchant contre la violence. Le gouvernement a évoqué un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenables, tandis que Maurice Kamto, leader de l'opposition, a qualifié ce crime d'horreur absolue.
Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, la Coupe de la CAF, Renaissance bat Pyramide et remporte le trophée.
Oui, le club de Berkane a remporté son tout premier titre continental après sa victoire lors de la finale disputée hier à Rabat face aux Égyptiens de Pyramide, score 1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Mohsen Lajou à la 15e minute de jeu. A noter que les Marocains ont terminé le match à 10 suite à l'expulsion d'El Hilali.
Certains clubs, Élisée, préparent déjà la prochaine Coupe de la CAF qui doit démarrer le 27 novembre.
Exactement Idrissa, c'est le cas des Béninois de Zaou. Le club universitaire de Cotonou en stage à Pobé à l'ouest du pays jouera demain un match amical contre la sélection nationale des moins de 20 ans du Bénin en préparation pour les éliminatoires de la CAN Junior 2021. Cette rencontre, qui se jouera au Saint-Louis Stadium de Kraké, va clôturer la première phase de ce stage entamé le 19 octobre dernier.
Le Soudan, avec la fin du championnat de football saison 2019-2020.
Oui, tout a été joué à l'issue de la dernière journée et c'est Al-Merrekh d'Omdurman qui a remporté le titre de champion après avoir battu à domicile son rival Al-Hilal sur le score de 1-0. Al-Zaïm vient de conserver son titre de champion pour la troisième fois consécutive en faisant un bilan total de 17 titres.
Du côté de l'Afrique du Sud, c'est la reprise de la première Soccer League.
Un mois après la fin de la saison 2019-2020, remportée par le Mamelodi Sundowns, le championnat de première division a repris ses droits. La première journée a vu le champion en titre aller battre 3-0 son dauphin de la saison écoulée, le Kaizer Chiefs. Super Sport United a aussi bien démarré en dominant Black Leopard sur la marque de 2-0. En revanche, Orlando Pirates n'a mieux fait que nul 1-1 sur le terrain d'Amazulu.
En RDC, en revanche, le championnat en est à sa cinquième journée.
Et deux derbies ont marqué cette journée. À Lubumbashi, FC Lupopo et V-Club se sont quittés sur un nul blanc. Même chose à Kinshasa, où le Daring Club Modiba Pembe et le TP Mazembe ont fait un but partout. Maniema Union de Kindu garde toujours la première place suite à sa victoire de 2-0 devant Lubumbashi Sport. Renaissance du Congo prend la deuxième place après avoir battu 1-0 la jeunesse sportive Groupe Bazano.
Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sebuya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, on connaît depuis quelques jours le vainqueur de la présidentielle du 18 octobre. Selon les résultats provisoires de la CENI, le président sortant, Alpha Condé, l'emporte avec 59,49% des voix. Mais son principal challenger, Seloud Alène Diallo, qui s'était proclamé vainqueur avant même la publication de ses résultats provisoires de la CENI, a obtenu 33,5% des suffrages, selon la commission électorale. Pour éviter les manifestations, les forces de l'ordre sont présentes dans les rues et Internet est perturbé depuis plusieurs jours dans le pays. Retour sur les résultats du scrutin avec Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Les Guinéens sont sortis massivement voter. Nous l'avons constaté le jour du vote des 5 heures. Les Guinéens étaient dans la rue pour aller voter. La confirmation a été donnée par les résultats qui ont été proclamés par le président de la Commission électorale nationale indépendante ce samedi. 78% de taux de participation. Et maintenant, le score selon la CENI, c'est le candidat du RPJ. Le président sortant qui en fait passe devant avec 59% des voix contre 33% pour son principal opposant, Seloud Alène Diallo.
Comment est-ce que les Guinéens ont réagi à ces résultats?
Alors, faut dire que d'abord avant les résultats, disons globaux, provisoires publiés par la CENI, il y avait les militants, les partisans de Seloud Alène Diallo qui occupaient la rue. Rappelez-vous, Seloud Alène Diallo, le principal opposant, avait donc annoncé sa victoire quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote. Et depuis, ses partisans sont dans les rues, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, pour revendiquer cette victoire.
Est-ce qu'il faut craindre des violences dans les jours à venir, puisqu'on a maintenant un président déclaré vainqueur par la CENI et un autre qui s'est dit vainqueur sur la base des résultats qu'il aurait au sein de son parti?
Alors, nous enregistrons des violences. Elles ne sont plus à craindre, c'est-à-dire que les Guinéens vivent ces violences. On parle de... Il y a deux jours de 9 morts, selon le gouvernement guinéen. Au moins 25 personnes tuées, selon l'opposition. Alors, il faut aussi dire que le Front National pour la Défense de la Constitution entre dans la danse et annonce une série de manifestations illimitées, selon la plateforme, jusqu'au départ du président Alpha Condé.
Alors, on fait cette interview question-réponse parce que
Internet est coupé à Conakry, c'est bien ça et que vous ne pouvez pas envoyer vos reportages?
Oui, ça a été une surprise. On ne peut pas envoyer des reportages, mais aussi des Guinéens qui vivent en Guinée ne peuvent pas non plus accéder donc au moteur de recherche pour en tout cas surfer ou utiliser en tout cas Internet. Aussi, on a parlé, on a aussi constaté des appels à l'international, parce qu'on avait du mal, en tout cas jusqu'à récemment, à appeler à l'international. Quelques informations circule pour dire que le réseau sera rétabli progressivement à partir de lundi. Wait and see, attendons de voir.
Zakaria Camara, joint à Conakry par Bagassi Koura.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Tchad, le gouvernement s'apprête à organiser un deuxième forum national inclusif du 29 au 31 octobre prochain. Un forum convoqué par le président Idriss Déby Itno pour évaluer les résolutions issues de la Constitution de la 4e République. Cette rencontre qui se veut inclusive ne fait pas l'unanimité, notamment au sein de l'opposition et de la société civile. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fait le point.
Plus de 70 résolutions issues du premier forum de 2018 qui n'ont pas été traduites en actes seront remises sur la table. Le statut des institutions telles que la Cour de compte et le Conseil constitutionnel, devenues chambres de la Cour suprême, doit être défini pendant ce forum. Des dispositions de la Constitution seront modifiées pour intégrer le maréchalat, le statut de maréchal accordé cette année au chef de l'État. La grande centrale syndicale du Tchad annonce déjà qu'elle ne participera pas à ce deuxième forum. Gounou Vaima Gamfare est le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad.
L'instauration de la présidence intégrale, l'introduction du serment confessionnel n'ont fait qu'exacerber la division entre les populations. Plusieurs fois, nous avons proposé des pistes pouvant alléger les conditions de vie de la population, mais jamais le pouvoir n'a voulu en tenir compte. Pour toutes ces raisons, l'USC informe qu'elle ne participera pas à ce forum pour légitimer ce qui n'apportera aucun résultat profitable aux couches populaires.
Pour le G24, un regroupement des partis politiques de l'opposition démocratique, c'est de façon unilatérale que le pouvoir veut tenir cette rencontre puisque l'opposition n'a pas été, dit-il, consultée au préalable. Podi Mohamed Bichara est le coordonnateur du G24.
C'est une pure perte de temps et le G24 ne peut pas s'associer à une œuvre de tâtonnement, à une œuvre de destruction du pays. Ce que le forum attend de l'opposition, c'est sa présence, c'est sa caution. Cette caution-là, nous, on ne va pas l'offrir sur un plateau d'argent au pouvoir MPS.
Le chef de file de l'opposition, Félix Nialbé Romadonga, estime que la politique de la chaise vide ne peut pas arranger la situation.
Aller au forum, ce n'est pas légitimer un mandat qui est légitime. Moi, je pense que c'est la méconnaissance du fonctionnement de l'État. Mais moi, en tant que chef de l'opposition, je suis partant. Mais ceux qui disent qu'ils ne partent pas, bon, ils ont leur raison. Mais c'est comme s'ils n'ont rien à défendre dans l'intérêt de la nation.
Sur plus de 88 partis politiques de l'opposition légalement reconnus, 40 sont invités à ce forum. Question de respecter les mesures barrières. André Kodumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, à N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Togo, la rentrée scolaire 2020-2021 est fixée au 2 novembre. Mais ce 26 octobre, c'est la rentrée pédagogique pour le corps enseignant. Il s'agit de la dernière ligne droite pour faire les derniers ajustements avant l'accueil des élèves dans une semaine. Dans les établissements publics, c'est le branle-bas de combat pour que les mesures barrières soient respectées, même si ce n'est pas évident, nous dit notre correspondante Kayu Lawson, qui a fait le tour de certaines écoles primaires de Lomé. Son reportage.
L'ombre de la COVID-19 plane sur cette rentrée au Togo. Bien avant la rentrée pédagogique proprement dite, les enseignants sont au poste. La situation sanitaire ne laisse pas d'autres options. Dans les établissements scolaires visités au centre-ville de Lomé ou dans sa périphérie, le constat est le même. Le corps enseignant est préoccupé par la disposition dans les salles de classe. Kossi Atou Ameou, enseignant à l'école primaire catholique Maria Goretti.
Comme il a été dit que les classes ne doivent plus excéder 60 élèves, donc un par banc, je crois que ça va nous gêner un petit peu. Ils vont rester deux par banc, mais il doit y avoir des distances entre les bancs. Et ils doivent rester aussi au bout des bancs. Et nous allons hygiéner surtout le port des bavettes. Et de temps en temps, d'aller les laver les mains.
Avec la nouvelle configuration, certains établissements peuvent se retrouver à court de bancs et ou de salles de classe. Kwasi Tijogbe Hanson, directeur de l'école primaire publique EPP Rizanawe Group A, craint un manque de table-banc dès la rentrée.
On n'a pas suffisamment de bancs. Entre-temps, les enfants s'asseyent à deux par banc, voire trois. Et on essaie de les encadrer comme ça. Maintenant, avec la distanciation, nous essayons d'avoir jusqu'à 60 par classe. Avec les grands qui étaient partis pour le CEPD, là, on était resté 30 par salle et 1 par banc. On avait eu 3 salles et les bancs étaient finis. Donc là, on aura besoin de bancs. On ne sait pas si le gouvernement va nous procurer.
Autre inquiétude dans les rangs du corps enseignant, le respect des gestes barrières par les élèves.
Quand on a repris le 15 juin avec les élèves des classes des armées, notamment le CM2, quand on parle des mesures barrières autres, ce n'est pas toujours respecté à leur niveau. Donc avec les tout-petits de CPE au CM1 maintenant, bon, toute notre inquiétude est à ce niveau. Parce que s'il y a un cas, ça veut dire que toute l'école est déjà contaminée.
Nous craignons, c'est pourquoi les parents qui viennent à notre niveau, nous les sensibilisons de dire aux enfants le bien fondé des bavettes, de les outiller, de les sensibiliser qu'à chaque fois, quand ils quittent la maison, de porter les bavettes, de ne pas s'embrasser. Et lorsqu'ils arrivent à notre niveau, c'est un travail de titan que nous allons abattre.
Cette rentrée scolaire a un goût particulier, d'autant plus que les parents ne se bousculent pas pour faire inscrire leurs enfants. Près de 3 millions d'élèves sont attendus dans les établissements pour cette nouvelle année scolaire. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Bénin, face au chômage et au sous-emploi, de nombreux jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. Et l'Organisation internationale de la francophonie encourage les femmes dans ce sens à travers un fonds spécial. Un tour dans l'univers de l'auto-entrepreneuriat au Bénin à travers ce reportage de Ginette Fleur Adandé, notre correspondante à Cotonou.
60% de la population béninoise est constituée de jeunes et c'est cette frange qui subit de plein fouet les affres du chômage et du sous-emploi. Le nombre de jeunes au chômage est de plus en plus grandissant avec pour corollaire la croissance de l'insécurité dans les grandes villes, notamment à Cotonou. Selon les estimations de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi sur le marché de l'emploi, on dénombre plus de 2 750 000 jeunes au chômage et le nombre de dossiers de candidature au dernier concours d'entrée dans la fonction publique est évocateur. Environ 7000 candidats pour 25 postes à pourvoir. Certains jeunes comprennent déjà l'importance de sortir de l'université avec un plan de secours.
C'est que tout employé, il ne faut pas attendre l'État. L'État ne veut pas réagir. Pour ne pas tomber dans le chômage. Ici que je suis en train d'étudier, je dois au moins faire quelque chose pour le moment, même si c'est vendre quelque chose en attendant. Je vais faire ça d'abord.
Parti de rien et n'avoir que la soif de réussir à donner du travail à d'autres jeunes. Mabel Adekambi est l'une de ces béninoises qui ont su s'imposer dans le monde de l'auto-entrepreneuriat. Elle est la promotrice d'une marque de liqueur qui aujourd'hui est sur le marché. The King of Soto, c'est le choix qui s'est imposé à elle après ses études en France.
Quand on arrive au Bénin, on se rend compte que tout est à faire et je me suis lancée ainsi dans l'entrepreneuriat. Le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que je suis surprise qu'un produit à la base fait pour être dégusté à la maison entre amis se transforme en une entreprise aujourd'hui. Et oui, on arrive à payer des salaires avec ça. On arrive à créer de l'emploi. Et derrière tout ça, on arrive à assurer une vente à des producteurs de sonabilly qui sont à l'intérieur du pays.
L'entrepreneuriat féminin subit aussi de plein fouet les effets de la pandémie du coronavirus. La francophonie se porte à leur côté à travers le fonds de solidarité dénommé La Francophonie avec elle, créé par l'institution pour venir en aide aux femmes francophones d'Afrique et des Caraïbes. Le Louise Mouchikiwapo, secrétaire générale de l'OIF.
Nous, la francophonie, on est une organisation budgétairement très modeste, mais nous voulons rester tout près de nos populations. Nous voulons accompagner et nous avons aussi l'ambition, en tout cas pour ce fonds en particulier, d'aller vers des ressources beaucoup plus importantes à partir de l'édition 2021.
De Cotonou, je n'ai plus à donner pour le voir.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.